Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Est-il à ce point sûr d'être réélu pour un quatrième mandat à la présidence de la Russie ? Toujours est-il que Vladimir Poutine n'a pas jugé utile de se déplacer le mois dernier lors de la cérémonie de sa propre investiture. Le groupe qui soutient sa candidature à la présidentielle a voté comme un seul homme en son absence. Il faut dire qu'avec une cote de popularité qui dépasse les 80%, Vladimir Poutine pourrait sans doute se contenter de ne rien faire jusqu'au 18 mars prochain, date du premier tour de scrutin. Il serait quand même élu haut la main. Pas faute d'adversaires, ils sont une soixantaine à être candidats pour l'instant, mais aucun parmi eux ne semble en mesure de faire de l'ombre à celui qui dirige le pays depuis 18 ans. Cette absence de suspense ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de campagne. La présidentielle en Russie n'intervient que tous les 4 ans. Comme dans la plupart des pays, elle offre à ceux qui y participent l'occasion de porter un certain nombre de thèmes dans le débat public. Alors, présidentielle russe, une élection sans enjeu, c'est la question autour de laquelle nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Jean de Glignasty, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Russie de janvier 2009 à octobre 2013. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Pour discuter avec vous, Françoise Dossé, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Votre dernier ouvrage, c'était aux éditions du Bordelot en 2016, « Être opposant dans la Russie » de Vladimir Poutine. Et puis troisième invité, Jean-Robert Raviot, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez dirigé l'ouvrage « Russie vers une nouvelle guerre froide » avec un point d'interrogation. C'était à la Documentation française en 2016. Alors, écartons tout de suite l'élément de suspense ou plutôt de non-suspense. Est-ce qu'il y a, et la question je vous la pose à tous les trois, réponse plutôt rapide si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a le moindre doute sur le fait que Vladimir Poutine sera réélu à la présidence de la Russie d'ici quelques semaines, Françoise Dossé?
Il y a assez peu de doute sur la réélection de Vladimir Poutine. La question, c'est plutôt dans quelles conditions il va être réélu et notamment avec quelle participation des électeurs, quel taux de participation. Et c'est, je crois, là le principal enjeu. Dans un contexte d'une élection qui a peu d'enjeux politiques, est-ce que les électeurs russes vont se déplacer pour aller voter? Je crois que c'est là la principale question.
Pas de doute autour de sa réélection, pas de doute autour de sa réélection dès le premier tour. On pourrait aller jusque-là, Jean de Glignasty. S'il y en a ce sera le 1er avril.
Oui, deuxième. Doute, même dès le premier tour. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Ça serait... Il peut se passer des choses. La campagne va commencer fin février. Février, mars, avril. Enfin, elle a déjà commencé de facto. Mais je ne pense pas. Non, vraiment, il sera élu au premier tour. Une seule fois, c'est arrivé que un président soit élu au deuxième tour. Je crois que c'était Yeltsin en 96, à la suite d'élections très très contestées, où certains disent que Zyuganov aurait dû gagner. En plus, Poutine se présente seul. En fait, il n'y a pas d'investiture. C'est un candidat indépendant, et donc il a fait appel au soutien de tous les groupes, des partis, etc. Mais il n'est pas investi par le parti Russie Unie. C'est un candidat unique, en fait. Enfin, oui, c'est le cas de le dire, mais enfin indépendant. Donc, non, il est sûr de son affaire, hein, je crois.
Vous êtes d'accord avec tout ça, Jean-Robert Raviot? Et question subsidiaire, quel est le score qui sera le plus important à observer? Est-ce que ce sera le score que va réaliser Vladimir Poutine, c'est-à-dire de quelle manière il sera réélu, ou bien ça sera l'ampleur de ceux qui n'iront pas voter, peut-être parce que découragés du fait de l'absence de suspense, peut-être aussi pour marquer une forme de désapprobation aussi à l'égard de Vladimir Poutine?
Moi, je vais être un petit bémol, je pense qu'il y a un léger suspense. C'est-à-dire que la réélection fait pas de doute. Le deuxième tour, je suis assez d'accord, il y aura sans doute pas de deuxième tour. Mais il y a tout de même un facteur nouveau qui est l'émergence d'un candidat qui peut cristalliser un certain mécontentement très fort. Et le candidat communiste, qui lui aussi est un candidat apolitique, mais soutenu par le Parti communiste et investi
Pavel
par
Groudinine.
Pavel Groudinine, qui bénéficie d'une espèce de petite émulsion de popularité et qui visiblement est un peu craint. C'est-à-dire qu'on craint craint un score plus élevé. Je rappelle que le score de Zyuganov la dernière fois, c'était 17% des voix contre Poutine, qui avait été réélu il y a 6 ans avec 65% des voix. Donc l'enjeu, ce serait effectivement pour l'opposition communiste d'arriver, d'accrocher le deuxième tour. Il y a assez peu de chances, mais il y a pas mal de chances que le candidat arrivé deuxième fasse un meilleur score que la dernière fois. Et encore une fois, là, tout ce qui est sociologie électorale, ce qu'on peut voir, c'est que le parti du pouvoir, que ce soit Poutine ou Medvedev, dispose d'un socle d'à peu près 40 millions d'électeurs. Ça varie entre 30 millions aux élections législatives parce qu'il y a moins de votants. Ça peut aller jusqu'à 50 millions. Donc il y a quand même un socle central d'électeurs pro-Poutine ou pro-Russie unie ou pro-parti du pouvoir qui est là et qui est quand même le socle principal. Donc c'est là-dessus que va se jouer l'élection. Est-ce que ce socle va s'éroder ou pas?
Qu'est-ce qui pourrait faire, Françoise Dossé, que Vladimir Poutine, bien que réélu, soit dans la situation de considérer sa réélection comme une défaite? C'est-à-dire, ça serait quoi? Être moins bien élu que la dernière fois, c'est-à-dire qu'en 2012, par exemple?
Oui, alors il y a le problème des chiffres fédéraux, c'est-à-dire de l'élection conçue dans son ensemble et des résultats donc au niveau global. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est aussi les indicateurs régionaux qui peuvent être peut-être beaucoup plus parlants et qui sont très intéressants, notamment voir les résultats qu'il va obtenir à Moscou et à Saint-Pétersbourg, les deux donc capitales, et voir quel score aussi les libéraux, les partis libéraux et démocrates vont obtenir dans ces deux grandes villes. Et on a vu que lors des élections de septembre 2017 à Moscou, les libéraux ont réussi à remporter quelques districts moscovites. Ce qui sont quand même des indicateurs importants pour mesurer la popularité du président.
Et qui pourraient avoir un impact sur son quatrième mandat, c'est-à-dire le contraindre davantage s'il est moins bien réélu qu'il ne l'imagine?
Alors, peut-être. Il faut voir à la fois les scores à Moscou et à Saint-Pétersbourg, je continue ma démonstration, et dans les régions, où là, on peut avoir un vote communiste, effectivement, mais aussi un vote en faveur du LDPR, qui est le parti nationaliste, qui sont des votes de protestation qui peuvent être assez importants et qui peuvent conduire Vladimir Poutine à rééquilibrer en partie effectivement sa politique. On le voit aussi, d'ailleurs, avec la nomination de ses chefs de campagne pour la campagne électorale, hein, puisqu'il a choisi de s'appuyer pas tellement sur le parti Russie Unie, mais plutôt sur ce qu'on appelle des organisations sociales, des associations de la société civile loyales au pouvoir, dans le domaine de l'éducation, de la santé, un chef d'entreprise aussi, une ancienne entreprise soviétique. Et donc on voit bien cette dimension quand même sociale aussi un peu de cette campagne.
Donc c'est une autre façon quand même de répondre justement à cette question, de l'enjeu de la prochaine présidentielle en Russie, Jean de Glignasti, c'est-à-dire de l'ampleur de la victoire de Vladimir Poutine va dépendre une partie de la politique qu'il pourra mener ensuite, parce qu'il pourrait être amené à opérer à certains ajustements et dans sa politique et dans les forces avec lesquelles il gouverne, parce que évidemment il ne gouverne pas seul, même si on a l'impression qu'il est seul à la tête de la Russie. Forcément il y a une administration, il y a des forces politiques qui existent.
C'est très difficile à dire. Moi, ce que je vois, c'est que jusqu'à présent, il s'est gardé toutes les cartes sur la table. Il n'a pas arbitré, par exemple, sur le plan économique, entre ceux qui souhaitent ouvrir les vannes du crédit, comme Boris Titov, qui lui-même est candidat, d'ailleurs, justement, candidat des entreprises, le parti de la croissance. Et puis, par exemple, Koudrine, à qui il a demandé un rapport, mais qui n'a pas suivi, pour une politique de restructuration libérale plus énergique. Donc, je crois qu'il a gardé toutes les cartes. Et à vrai dire, je crois que rares sont ceux qui savent ce qu'il va faire, en fait. Alors, pour revenir à Grudinin,
Le candidat soutenu par les communistes.
Par les communistes. Donc c'est la première fois. Zyuganov était un vieux cheval de retour qui avait fait toutes les élections depuis 2000. Il avait failli en gagner une en 96. Et là, c'est un vieux monsieur charmant et complètement décalé par rapport à la réalité sociologique. Il représente, disons, l'archéocommunisme, en fait, un peu adapté aux réalités de la Russie contemporaine. Moi, je ne connais pas Grudinin, je n'ai pas creusé sa personnalité. Il est le président d'un kolkhoz qui s'appelle kolkhoz Lénine. Je ne sais pas si c'est un signe, mais j'ai tendance à penser qu'il n'est pas à même de coaliser les forces de gauche, entre guillemets, c'est-à-dire l'héritage du Parti communiste. Zyuganov avait fait quand même 30% des voix en 2000. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à penser qu'il y a potentiellement en Russie un tiers d'électeurs qui sont des nostalgiques plus ou moins de l'Union soviétique. Et avec Zyuganov, évidemment, aucun risque pour Poutine. Avec Grudinine, peut-être, mais bon, Soviet-Lénine et tout, je crois que en fait, le Parti communiste deviendra véritablement un risque pour le pouvoir en place le jour où une personnalité pourra de façon plus moderne, synthétiser cette force qui est potentielle, mais qui n'est pas réalisée, qui n'est pas concrétisée.
Alors vous avez cité un certain nombre de candidats à cette présidentielle. On aurait du mal à les citer tous, étant donné le temps qui nous est imparti, puisque aujourd'hui, même si ce sera sans doute pas le cas le 18 mars prochain, mais il y a plus d'une soixantaine de candidats qui sont déclarés, puisqu'on réfléchit aux enjeux, Jean-Robert Aviaud, c'est-à-dire, c'est quoi l'enjeu pour ces candidats qu'on peut imaginer être des candidats de l'opposition, puisqu'ils se, comment dire, ils se confrontent à Vladimir Poutine. S'il n'y a pas d'idée de victoire derrière, est-ce que l'idée, c'est par exemple de se faire remarquer? Peut-être, pourquoi pas, de se faire remarquer, compris par Vladimir Poutine. Oui. C'est pour porter des thèmes de débat dans la campagne.
Enfin, vous dites qu'il y a 60 candidats, il y a 60 personnes qui ont déclaré leur volonté d'être candidat.
Voilà.
On est très très loin de... D'abord, les candidatures ne sont pas enregistrées, ne sont pas validées. Ça dépend, il faut avoir des parrainages quand on est candidat indépendant. Sinon, lorsqu'on appartient à un parti qui est représenté à la Douma, il n'y a pas besoin de parrainage, il faut simplement se déclarer et avoir l'investiture de son parti.
C'est le cas par exemple de Jirinovski,
c'est le cas de Jirinovski qui est le seul candidat pour l'instant aujourd'hui à être enregistré officiellement. Poutine ne l'est pas encore complètement par la commission électorale centrale. Bon, chaque candidat a des stratégies qui lui sont propres, qui sont très différentes. On ne peut pas comparer la stratégie par exemple d'une candidate comme Ksenia Sobchak ou celle de Grudinine, etc. Je pense qu'il y a vraiment une pluralité de stratégies. Et je pense qu'au bout du compte, il y aura peut-être une dizaine de candidats, parce que les conditions sont extrêmement strictes.
Mais ce que je voulais dire dans ma question, c'est-à-dire, ça sert à quoi en fait d'être candidat dans une élection qui, vu de l'extérieur, paraît totalement verrouillée, puisqu'on connaît déjà le vainqueur?
Eh bien, dans la mesure où en Russie, on n'est pas dans une démocratie libérale, ouverte, compétitive, mais on est dans une sorte de démocratie, comment dire, où avec un parti dominant qui bloque l'alternance au pouvoir, l'enjeu, ce n'est pas l'alternance. Donc là, l'enjeu, ce n'est pas de battre Poutine. L'enjeu, c'est de force de faire entendre sa voix pour certains, et voire d'influencer la politique du gouvernement pour d'autres. Et là, je reviens sur Grudinine un instant, parce qu'effectivement, il est intéressant que le Parti communiste ait choisi de l'investir, parce que c'est un patron de Sovkhoz qui est un moscovite. Donc c'est pas seulement un paysan, si j'ose dire, ou un patron de Sovkhoz venu de la campagne, mais c'est quelqu'un qui connaît assez bien les arcanes médiatiques, politiques de Moscou. Donc premier paradoxe, en fait c'est quelqu'un qui a 57 ans, qui est beaucoup plus jeune que les précédents, qui est donc plus jeune que Poutine, et qui incarne une certaine forme de patronage social, ou plus exactement de management social à travers son Sovkhoz. C'est-à-dire qu'il incarne à la fois, c'est un patron, ça fait 20 ans qu'il dirige ce Sovkhoz, et il a très bien réussi pour des raisons économiques simples, c'est qu'il dirige une grande ferme collective aux portes de Moscou, donc qui a un marché presque naturel dans une grande ville métropole la plus riche de Russie. Mais en même temps, il porte un discours extrêmement social, néo-soviétique, je dirais, qui, en des temps où la politique du gouvernement et la politique économique et sociale est très contestée, et ça je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus, il incarne une possibilité, s'il fait un bon score, et, tout simplement d'influencer Poutine, comme vous le disiez. Poutine n'a pas dévoilé ses cartes, il pourrait peut-être changer de jeu de cartes.
Françoise Dossé.
Oui, je pense qu'il faut s'intéresser à qui se présente à cette présidentielle, mais aussi qui ne se présente pas, c'est-à-dire qui sont les candidats qui auraient pu être là et qui n'y sont pas. On en connaît quelques-uns, hein, surtout si on compare avec la situation de 2012. Et le principal absent, c'est quand même Alexei Navalny, qui, lui, n'a pas obtenu le droit de se présenter.
Au donc, prétexte d'une condamnation judiciaire
antérieure. De procès monté plus ou moins de toutes pièces.
Il aurait été en mesure, lui, d'être un véritable adversaire face à Vladimir Poutine?
Probablement, oui. Et en fait, d'une certaine façon, cette multiplication des candidats, c'est une façon de mettre en scène une démocratie un peu de façade. alors que les principaux opposants ne sont pas, ne sont plus dans le jeu politique. Et bon, il faut simplement rappeler qu'Alexei Navalny avait obtenu près de 30% des voix à Moscou quand même lorsqu'il s'était présenté aux élections municipales, donc c'était un score tout de même solide, et qu'il a fait beaucoup parler de lui en 2017, l'année dernière, notamment par ses enquêtes sur la corruption du Premier ministre Medvedev, qui ont été extrêmement relayées sur Internet. Je crois que son film a été vu plus de 20 millions de fois, donc c'est quelqu'un qui a quand même pris, lui, part au débat public de façon très très active et qui a été écarté de l'élection présidentielle. Voilà. Donc simplement pour dire qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur ceux qui participent, mais aussi vraiment sur ceux qui ne sont pas là.
Juste sur cette idée de démocratie de façade, est-ce que ça relève de la volonté personnelle de Vladimir Poutine de ne pas avoir d'opposants sérieux face à lui? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que pour quelqu'un qui joue aussi beaucoup sur son image de quelqu'un d'extrêmement viril, de quelqu'un de fort, ça ne lui serait pas finalement plus profitable d'avoir de vrais adversaires à sa hauteur avec lesquels il pourrait débattre? Parce que là, il a dit, bon, ben voilà, les débats, ça ne m'intéresse même pas. Hein. Il ne va pas à son investiture, il ne va pas dans les débats.
Oui, alors... probablement, mais en même temps avec cette inquiétude de ne pas aller trop loin pour ne pas remettre en cause quand même l'essentiel. Et donc là, c'est vrai que Alexei Navalny, et ça on peut pas lui reprocher, a fait un gros travail, notamment dans les régions, en se déplaçant beaucoup dans le pays, en essayant de monter des équipes dans les différentes régions, en étant très relayé sur Internet. Et visiblement, voilà, l'administration a fait le choix de laisser se présenter Xenia Sobchak, qui est une candidate beaucoup moins consensuelle, que de laisser participer Alexei Navalny, qui a aussi cette particularité de jouer à la fois de ses appuis dans les cercles libéraux et démocrates, mais aussi dans les cercles populistes et nationalistes. Et c'est ce qui fait la force d'Alexei Navalny, probablement, c'est d'être capable d'unir des forces politiques qui, a priori, sont antagoniques.
Il faut dire que cette fameuse Xenia Sobchak, qui est donc la figure qui est censée remplacer, entre guillemets, Alexei Navalny, elle a une filiation un petit peu particulière, puisque son père est considéré comme le mentor ou un des mentors de Vladimir Poutine. Jean de Glignasti.
Oui, c'est vrai. Mais c'est une candidature qui a manifestement été suscitée par le Kremlin. J'ai trouvé que Xenia Sobchak, au moment de cette conférence de presse qui a duré 3h30 le 14 septembre, avait été traitée de façon un petit peu paternaliste par Poutine, alors même que ses propos étaient quand même assez virulents, en fait. Donc il l'a qualifiée de jeune lionne. Ce n'est pas une candidate sérieuse. D'ailleurs, elle-même avait dit que qu'elle pourrait éventuellement se désister en faveur de Yabloko, de Yavlinsky, ou même de Navalny. D'ailleurs, elle a envisagé l'hypothèse. Sur Navalny, ce que je voudrais dire, c'est que, manifestement, à l'intérieur du Kremlin, il y avait des options différentes qui étaient étudiées. À l'époque, le chef de l'administration présidentielle, au moment des élections municipales à Moscou, où Navalny a fait 27,7%, presque 30% des voix, comme vous l'avez dit. C'est Volodin qui avait insisté pour que Navalny se présente, pour qu'il y ait justement ce rêve de tout dirigeant, d'avoir un interlocuteur à la fois crédible et en même temps qui perde à la fin. Et donc il aurait pu, d'après Volodin, jouer ce rôle. En fait, je pense qu'on a tranché après. Le Kremlin restait très longtemps ambigu sur la possibilité de Navalny de se présenter ou pas. Et c'est en fait Madame Panfilova, la patronne du Comité électoral national, qui a décidé que, ayant été condamné, il ne pouvait pas se présenter. Mais il y a un jeu avec Navalny. Hein, il y a un jeu qui n'est pas terminé d'ailleurs. Et je voudrais dire une chose aussi sur la gauche, sur Grudzinin. Moi, je ne connais pas très bien le parcours de Grudzinin. Mais il y a un vrai candidat de gauche qui a fait de la prison, qui est sorti, c'est Udaltsov. Alors ce monsieur, on n'en entend pas parler en ce moment, mais lui, il représente, il peut représenter, à mon sens, la possibilité de coaliser des forces si le Parti communiste n'y arrive pas.
Est-ce que le cadre d'une campagne comme cette campagne qui commence pour la présidentielle en Russie, Françoise Dossé, c'est une occasion justement pour l'opposition de se faire entendre et de se faire entendre davantage qu'elle ne peut le faire d'habitude? Jean de Glignasti évoquait donc les propos virulents de cette candidate, c'est-à-dire qu'on est à la fois parfois étonné entre le niveau, comment dire, de liberté de parole que peuvent avoir certains dans l'opposition et en même temps la répression qui peut être faite à l'égard de certains membres de l'opposition. l'opposition, mais pas tous. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre d'ici.
Oui, alors pour l'opposition, je pense que la référence, c'est aussi ce qui s'est passé lors de la précédente élection présidentielle en 2011-2012, qui a été marquée par des manifestations très importantes contre la fraude électorale, qui a fait descendre dans les rues des milliers de personnes, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps. Et donc ça, là, en 2011-2012, oui, il y a eu une vraie prise de parole, notamment de la jeunesse, qui s'exprimait, qui a dénoncé un certain nombre de la corruption, la mainmise de l'élite sur le pouvoir, etc. Et donc, il y a un peu l'espoir de rejouer le coup de 2011-2012 en 2018 à l'occasion de cette nouvelle élection présidentielle. Mais malgré tout, le contexte a profondément changé. Il y a eu la question de l'annexion de la Crimée, quand même, qui a ressoudé, qui a recréé une forme d'unité nationale autour du gouvernement et de la personne de Vladimir Poutine. Et puis, il y a eu aussi des jeux institutionnels qui font que les élections législatives et présidentielles ne sont plus organisées en même temps, mais ont été dissociées. Donc les élections législatives ont eu lieu en 2016 et elles ont été marquées quand même par une forte abstention et surtout par le fait que les jeunes se soient complètement détournés en fait de la participation politique. En 2016, la participation dans beaucoup de bureaux de vote était aux alentours de 30-35%, ce qui est peu, et avec un électorat très âgé. Et le fait d'une certaine façon de ne pas autoriser Alexei Navalny à se présenter lors de cette élection de 2018, ça risque aussi de détourner les plus jeunes en fait du vote et de l'élection.
Jean-Robert Ravier.
Oui, je voudrais revenir sur ce qui a été dit et par Françoise et par M. Guignasti. Effectivement, il y a un jeu dans cette démocratie dirigée à la russe où finalement le pouvoir choisit un peu aussi son opposition, si on peut dire, en tout cas dans les urnes, comme ça a été dit. Il y a un jeu entre une opposition, enfin disons, qui le jeu était clairement à l'automne, qui sera en position numéro 2, qui arrivera derrière Poutine au premier tour, Navalny ou un autre candidat. Et c'est clair que Navalny a été écarté. Bon, je rappelle qu'il a effectivement un procès. Enfin, son procès n'est pas terminé. Donc, il a fait un recours devant la Cour suprême qui a été rejeté le 6 janvier. Donc, sa participation était exclue dès le départ et il le savait. Pourquoi le Kremlin a-t-il finalement, je pense, appuyé, n'a pas fait revenir dans le jeu Navalny? Il aurait peut-être très bien pu le faire parce qu'il craignait pour la participation. Après les élections de, comme Françoise a dit, de septembre 2016 à législatives qui ont connu une très forte baisse de la participation, très forte abstention, et les élections de septembre 2017, le round d'élections locales et de gouverneurs où la participation était encore plus basse, on a craint, étant donné l'état d'esprit social et de mécontentement profond dans la population, je parle pas des Moscovites, je parle pas des gens qui manifestent contre la corruption, je parle de la masse des Russes qui est vraiment très très mécontente de la hausse des tarifs. Je rappelle quand même quelques chiffres. Moins 3,7% de production, la baisse de la production industrielle, la chute du PIB en parité de pouvoir d'achat sur les deux dernières années, et une politique d'austérité qui ne se justifie pas eu égard à la situation sociale. Bon, austérité, c'est l'inflation à 2,5%, le taux d'intérêt à 7,75%. Bon, tout est dit. Donc le sentiment que le gouvernement, fait le jeu ou gouverne en favorisant l'intérêt des banques, la finance et des rentiers. Bon, ce mécontentement social, il a été perçu par le pouvoir, c'est très clair, et un candidat comme Navalny n'est absolument pas capable d'apporter une réponse à ça. Il aurait été capable de mobiliser les jeunes, comme a dit Françoise Dossé très justement, de mobiliser contre la corruption, mais certainement pas de faire venir aux urnes de nouveaux candidats. Et justement, vous parliez d'Oudaltsov. Oudaltsov était un des artisans de la candidature Groudinine. Donc l'extrême gauche, le Livre Front, a été à l'origine de la coalition de forces nationalistes de gauche et du Parti communiste pour soutenir Groudinine. Le pouvoir apparemment a fait le choix d'un candidat social comme sparring partner, on peut dire ça, pour l'élection présidentielle. En fait, en quelque sorte, le Kremlin choisit qui sera en deuxième position et c'est ça l'enjeu de l'élection.
Alors vous évoquiez la mobilisation des jeunes ou la peut-être difficile mobilisation des jeunes. Peut-être qu'elle est moins forte effectivement qu'en 2011-2012. Elle n'est pas totalement absente. Écoutez l'extrait de ce reportage qui date du 25 octobre dernier sur France 3, manifestation d'une partie de la jeunesse moscovite.
C'était le 7 octobre dernier, alors que Vladimir Poutine fêtait ses 65 ans. Ils étaient des centaines à Moscou à réclamer le départ du président russe au pouvoir depuis bientôt 18 ans. Des jeunes qui, pour la plupart, n'ont connu que lui à la tête du pays.
Je suis contre ce qui se passe actuellement en Russie. Cette soi-disant liberté d'expression qui n'en est pas une, parce qu'on nous interdit de dire ce qu'on pense.
Je veux un avenir meilleur pour moi et pour mes futurs enfants. Je ne veux plus d'un régime comme celui-ci.
Kirill et Véronika se sont rencontrés il y a 6 mois au quartier général du leader de l'opposition, Alexei Navalny, qu'une justice aux ordres interdit de se présenter à l'élection présidentielle de mars prochain.
Chaque année, c'est de plus en plus pénible de vivre en Russie. Chaque année, nos relations sont de pire en pire avec les autres pays. La vie ici est de plus en plus chère. Tout se détériore et les gens sont de plus en plus agressifs parce que c'est dur de vivre dans de telles conditions.
Alors Jean de Glignaski, on entend dans ce reportage à la fois des revendications d'ordre social, comme évoqué tout à l'heure Jean-Robert Raviot, la vie chère, mais aussi des questions qui ont trait à la liberté. Est-ce que ce thème des libertés publiques, ça fait partie des enjeux de cette présidentielle, ou bien est-ce que c'est un miroir déformant, ce qu'on vient d'entendre, de ce qui est vraiment le sentiment de la population russe aujourd'hui?
Ça dépend ce qu'on entend par population russe. Il est clair que à Moscou, en 2013, au moment où j'ai quitté Moscou, c'était très très difficile de trouver une personne qui ne soit pas fonctionnaire, qui soit en faveur de Poutine. Honnêtement, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Soit on était fonctionnaire et bon. Mais tout le monde était contre Poutine à l'époque et son taux de popularité était en dessous de 50%. Donc effectivement, il y a eu un effet Crimée très fort. Et donc une espèce de resserrement des rangs autour du dirigeant. Donc c'est pas étonnant qu'à Moscou et dans les villes, surtout les jeunes, qui se sont manifestés à plusieurs reprises. On n'en a pas trop parlé dans la presse, qui est rare d'ailleurs. Mais il y avait un moment la révolte des mouchoirs blancs. Puis il y a eu la révolte des petits seaux bleus parce qu'on trouvait que la police était trop, comment dirais-je, que les grands du régime n'affrontaient pas les embouteillages et court-circuitaient tout avec des petites lumières bleues. Alors tout le monde se mettait des petits seaux en plastique bleu qui ont été interdits d'ailleurs ensuite. Donc non, Moscou est une ville assez frondeuse, il faut comprendre ça. Mais j'ai regardé des sondages assez étonnants de Levada ou Tiom d'ailleurs. Enfin, Levada est un organisme de sondage considéré comme en gros assez fiable. Tiom est plus proche du gouvernement, mais enfin ce sont des organismes sérieux. Et on leur disait, vous voulez que le prochain régime soit plus libéral comme maintenant ou plus autoritaire? Et en fait, il y avait une majorité qui se prononçait pour un régime plus autoritaire, ce qui m'a vraiment étonné. Donc en fait, ce qu'on voit dans les villes ne correspond pas, en fait, à la moyenne si on prend en compte la Russie profonde.
Sur la demande de peut-être davantage d'autorité, je vais citer une certaine Françoise Dossé qui répondait à une interview de Télérama en 2016 et qui disait ceci: la plus grande peur des Russes, ce n'est pas un pouvoir autoritaire, mais de retourner dans ce moment douloureux que fut le début des années 90. On l'a bien vu en 2011-2012, la protestation civique n'était pas prête à déstabiliser tout le pays. C'est-à-dire, il y a à la fois l'effet Crimée, il y a aussi la mémoire récente de ce qu'a été l'après-Union soviétique, Françoise Dossé.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement très très fort, hein, ce très grand attachement en fait à la stabilité du pays pour ne pas retomber dans ce chaos des années 90 qui a été extrêmement douloureux pour la population. Alors, qui est très fort chez les gens qui ont vécu cette période, peut-être moins maintenant chez les plus jeunes, qui, eux, sont très branchés, connectés sur Internet et les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est pas du tout... les jeunes à Moscou, enfin, en Russie même, sont pas du tout, déconnectés de toute la grande modernisation technique qui a eu lieu ces dernières années. Et donc, ils sont très, très présents sur Internet, avec énormément de projets sur Internet qui sont très intéressants et qui, d'une certaine façon, sont assez décalés par rapport aux médias officiels, je dirais, à la télévision et aux grands journaux de la presse écrite. Et on le voit très bien. Alors, je reprends mon cas de Navalny, mais les journalistes dans la grande presse écrite russe n'ont pas le droit de parler de Navalny. Donc ça, il suffit d'interroger un journaliste russe, il vous le dit très clairement. Donc, toutes les forces critiques, d'une certaine façon, et ces mouvements qui s'appuient sur les jeunes, s'emparent en fait des technologies Internet pour réussir à s'exprimer, à échanger, etc. Et Navalny a très bien compris cet usage d'Internet. Alors, en même temps, ça a aussi une contrepartie, c'est-à-dire que Internet et les réseaux sociaux peut être à la fois un formidable outil de mobilisation, de diffusion de la critique, etc. Et c'est aussi un formidable outil de contrôle, d'encadrement et de surveillance en fait des communications. Donc on voit bien là le double jeu aussi qui se fait autour d'Internet.
Sur ce moment chaotique qu'ont été les années 90 pour la Russie, Jean-Robert Aviaud, vous disiez donc tout à l'heure, il y a aujourd'hui un fort mécontentement social, mais est-ce que malgré tout, le pouvoir russe et en premier lieu Vladimir Poutine, mais on pourrait aussi parler de son premier ministre, Dmitri Medvedev, réussissent quand même toujours à capitaliser, c'est-à-dire sur un bilan qu'il ferait porter justement au début des années 2000 en disant regardez la situation qui était celle que vous connaissiez quand on est arrivé au pouvoir, on est quand même dans une situation économique a priori quand même bien meilleure, économique et sociale.
Oui, enfin bien meilleur, mais en même temps, oui, alors effectivement, il y a le temps poli, le temps long. C'est vrai que Poutine, Medvedev s'exprime pas beaucoup là-dessus, mais Poutine revient souvent sur cet aspect central de sa légitimité. C'est-à-dire, nous avons, enfin, grâce à nous, l'ordre a été rétabli, l'ordre économique et social. Bon, mais il faut distinguer, je dirais, la période qui va de 2000 à 2010, la première décennie et la deuxième, parce que la première décennie, c'est les prix du pétrole très élevés et une espèce de croissance, de boom de la croissance en Russie, qui va permettre une dépense publique plus importante et de résorber, je dirais, tous les trous qui avaient pu être créés par le chaos des années 90. Résorber seulement, pas forcément construire quelque chose de durable. Et aujourd'hui, je dirais, le débat politique qui porte davantage de cette campagne, il porte davantage sur la stratégie de croissance. Quelle stratégie avoir pour retrouver la croissance en Russie, parce que la croissance a fortement baissé, et créer une économie de demain qui soit une économie viable et dynamique.
Est-ce qu'on va dire que Poutine là-dessus justement est prêt à des réformes structurelles? Il participe régulièrement à un exercice qui s'appelle la ligne directe où il est confronté à la télévision russe, à des téléspectateurs russes qui lui posent directement des questions.
Alors, on ne sait pas quel est le niveau. Au moins une fois par an, voilà. C'est très préparé, c'est très bien.
Et lors de la dernière, il évoquait justement, il répondait à des questions sur la situation économique et sur la récession. Il disait oui, c'est vrai que la récession est terminée, mais il y a des problèmes, il y a la baisse des revenus, il y a l'augmentation du nombre de pauvres. Et il disait, quelles sont les causes de ce fléau? Il s'agit avant tout de la structure de notre économie qui ne nous convient pas. Est-ce que la campagne est aussi une forme de période de test pour savoir quel type de réforme structurelle il pourrait mener dans son prochain mandat?
Je pense que la campagne, depuis 2016, depuis l'adresse présidentielle de 2016, le ton a changé chez Poutine. La distance aussi que Poutine prend par rapport au gouvernement est très nette. Et il y a aussi un discours extrêmement... beaucoup plus réservé qu'avant sur la politique économique du gouvernement. C'est-à-dire que peut-être se prépare-t-il...
Vous voulez dire, il se désolidarise un peu de ce qui est fait par le gouvernement?
Il ne va pas jusqu'à se désolidariser, mais on laisse ouvert, enfin il laisse ouvert dans son discours, ouverte la possibilité d'un changement de politique économique. C'est-à-dire moins d'austérité, davantage d'investissement, un peu plus keynésien, si vous voulez. Vous parliez tout à l'heure de Boris Titov, c'est un candidat très intéressant, parce que c'est un candidat qui est en même temps plénipotentiaire pour le droit des entrepreneurs, donc nommé par Poutine, donc il est très proche de l'administration et du Kremlin. En même temps, il a un programme économique qui est d'ailleurs le plus explicite que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle la stratégie de la croissance, qui est élaborée dans le cadre d'un club, d'un think tank qui s'appelle le club Stolypine, dans lequel on a un programme en 14 ou 15 points, je sais plus, sur une vraie stratégie économique, une vraie politique économique alternative. C'est pour ça que je dis que cette campagne, contrairement à celle de 2012, où on avait une grosse protestation de rue et beaucoup de contestations sur la légitimité même des élections, là, on a une campagne beaucoup plus, je dirais, sur le fond, c'est-à-dire quelle politique pour la Russie. Et étant donné que Poutine se présente probablement pour la dernière fois, c'est très probable quand même que ce dernier mandat de 6 ans soit le dernier de sa vie. Je pense qu'il réfléchit probablement à un amendement de la politique qui était menée jusqu'ici. Et donc, je finis là-dessus parce que c'est très important de comprendre qu'effectivement, je dirais Navalny, c'est le candidat plus des jeunes, Grudinin plus des vieux. Qui vote en Russie? Les vieux. Les jeunes descendent dans la rue, mais ils votent pas beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est bien sûr pris en compte par le Kremlin. On va faire, on organise les élections en fonction des gens qui se déplacent pour voter et pas forcément en fonction des gens qui protestent dans les micros.
Jean de Glignasti, vous avez signé un article récemment pour l'Iris, intitulé « Présidentielle russe, l'économie éclipsée par la politique étrangère ». Est-ce que ça veut dire que si jamais Vladimir Poutine envisage ce prochain mandat comme son dernier, il va pas forcément s'intéresser beaucoup aux questions économiques, raison peut-être pour laquelle pour l'instant son programme est pas très précis, et qu'il a envie de terminer vraiment pour parfaire son image de nouveau leader mondial, enfin un des grands leaders mondiaux?
Ce que je voulais dire, c'est que pendant cette campagne, la seule chose incontestable dont Poutine peut se prévaloir, c'est ces résultats de politique étrangère qui font quasiment l'unanimité.
Y compris sur la Syrie.
Y compris sur la Syrie, dont il a annoncé d'ailleurs le retrait de ses troupes, ce qui est aussi un élément positif dans l'esprit des Russes. Donc le retour de la Russie sur la scène internationale, c'est un acquis, et c'est un acquis électoral, que tout le monde... ça fait partie du consensus de Crimée, en gros, ce qu'on appelle le consensus de Crimée. Et donc là, ça dépasse les limites de son parti, il y a une espèce de grosse majorité qui approuve cet aspect. Mais les problèmes économiques sont là. Alors, ils ne sont pas aussi graves qu'on le lit parfois, parce que le taux de croissance cette année sera de 1,8 à 1,9, c'est-à-dire la même chose que la France. Et finalement, la Russie se débrouille pas si mal dans son adaptation au régime des sanctions. Alors, c'est sûr que l'augmentation du prix du pétrole qui n'a pas été déterminante dans le taux de croissance de 1,9. Elle compte pour pratiquement la moitié. Hein. L'économie russe s'adapte plus qu'on veut bien le dire. Mais, comme le dit très justement Monsieur Raviot, il lui faudra décider de sa politique et notamment lâcher les vannes du crédit ou pas, parce que c'est le thème majeur de Titov. Titov, on lui a demandé de participer aux élections. Et si on lui a demandé, c'est qu'on veut que cette voie et qu'elle soit un élément. Donc en fait, la question économique sera, après l'élection, un problème prioritaire à traiter pour le prochain gouvernement.
Il avait un programme présidentiel lors des précédentes élections, Françoise Dossier, Vladimir Poutine, c'est-à-dire, je sais pas, mes 100 propositions, mes 60 engagements pour faire référence à quelqu'un.
Oui, il avait élaboré des programmes. Ce qui est intéressant lors des précédentes élections de 2011-2012, c'était quand on était quand même dans une position d'alternance avec ce fameux tandem Poutine-Medvedev qui se renversait. Et donc,
Medvedev était président et lui était
voilà, et donc lui reprenait le poste de président. Et la présidence Medvedev a quand même des spécificités intéressantes avec Medvedev qui avait lancé une politique de modernisation, justement une volonté de moderniser l'économie, très axée sur les nouvelles technologies, sur les nanotechnologies, etc. Enfin voilà, il était très, très intéressé par ces aspects. Là, ce qui n'est plus le cas avec Vladimir Poutine, on revient quand même à une conception du développement économique beaucoup plus classique, traditionnelle, me semble-t-il, surtout si on voit que l'un de ses directeurs de campagne est le directeur de l'usine Kamaz, qui est une vieille usine soviétique. Hein, voilà, donc il y a une forme aussi de retour à des formes de développement économique peut-être plus classiques.
Mais si je vous demandais s'il avait des programmes, et peut-être alors, notamment lors de la présidence présidentielle, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui peut lui être opposé aujourd'hui, de dire, est-ce que Vladimir Poutine, par exemple, a tenu les engagements qui étaient les siens lors de la dernière présidentielle, comme on le fait finalement de manière assez classique dans nos pays, notamment en France.
Oui, alors là, on est tout de même pas dans un contexte très très différent tout de même, hein, où le débat public et la culture de la critique et de la contestation n'est pas du tout la même. Est-ce que Vladimir Poutine a réussi peut-être à élaborer, c'est aussi un modèle politique qui vaut en partie au-delà de la Russie, c'est-à-dire qu'il a aussi vocation à rayonner d'une certaine façon au-delà des frontières de la Russie. On voit bien toute l'influence que peut exercer ce modèle dans un certain nombre de pays d'Europe, Europe centrale et orientale, mais aussi dans nos pays d'Europe occidentale. Hein. Et on voit cette espèce aussi de fatigue démocratique dans un certain nombre de pays qui peut favoriser la montée de régimes non pluralistes sur le modèle russe d'une certaine façon.
Et donc une dimension presque exemplaire de ce qu'est le régime de russe sous Vladimir Poutine, en quelques secondes.
Exemplaire, je ne sais pas, Raviot. Je pense que...
Exemplaire au sens, c'est pris pour exemple.
Vladimir Poutine, dans cette campagne et dans le système politique russe, est un monarque élu. Il est sur un piédestal qui fait qu'on ne peut pas le comparer vraiment à aucun autre président élu dans l'autre système en Europe de l'Ouest. Je pense que toute comparaison est presque impossible.
Et ce sera la conclusion, si vous le voulez bien, pour cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Françoise Dossé, Jean-Robert Raviot, Jean de Glignasti, Les références de vos ouvrages aux uns et aux autres, les sites auxquels on peut se référer, c'est comme chaque soir sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que Vladimir Poutine, par exemple, restera au Kremlin. Du Grain à Moudre, 2024. On retiendra cette date, Jean-Robert Raviot. Du Grain à Moudre, c'est une émission préparée par Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster, réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir Élise Leu.